Bonjour, je m'appelle Annie Lemay, je suis externe à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et je vous parle des fluides et électrolytes propres à la chirurgie. Le plan que je vous propose, c'est de vous parler de l'eau corporelle et sa distribution, de la thérapie hydrique, soit la thérapie d'entretien et la thérapie de réplétion, et enfin, on va parler de désordres électrolytiques spécifiques par rapport au sodium, au potassium et au calcium. L'eau corporelle totale représente 50 à 60 % du poids corporel selon le rapport entre cellules adipeuses et cellules musculaires squelettiques. Elle est divisée en compartiments intracellulaires représentant 40 % de notre poids total et extracellulaires 20 % du poids, ce dernier étant subdivisé en plasma, 5 % de notre poids, et liquide interstitiel, 15 %. Notre besoin quotidien en eau varie entre 30 et 35 millilitres par kilogramme. Donc, pour un homme de 70 kg, on parle d'une quantité entre 2,1 litres et 2,45 litres par jour. Quant aux principaux électrolytes, ils sont en extracellulaire le sodium, calcium, chlore. Et pour le milieu intracellulaire, il s'agit du potassium, phosphate et magnésium. La thérapie hydrique a deux composantes, l'entretien et la réplétion. La thérapie d'entretien. En présence d'une fonction rénale à peu près normale, la thérapie d'entretien est amorcée lorsqu'on pense que le patient ne sera pas capable de manger ou boire pendant une période prolongée, par exemple en périopératoire ou sur ventilation. Les fluides d'entretien sont hypotoniques et contiennent suffisamment d'électrolytes pour combler les pertes quotidiennes. Pour calculer le volume d'entretien, on utilise la formule 100, 50, 20 ml par 24 heures. Donc, pour un homme de 70 kg, on fait le premier 10 kg fois 100 ml par kg, ce qui donne 1000 ml. Le second 10 kg fois 50 ml par kg, ce qui donne 500 ml. Et enfin, le 50 kg restant fois 20 ml par kg, ce qui donne 1000 ml pour un total de 2500 ml par jour. Le fluide d'entretien, c'est du demi-normal salin 0,45% avec une osmolalité de 154 millimoles par kilogramme d'eau. Les besoins sont accrus si les pertes sont aussi accrues par la fièvre, un drain chirurgical ou une perte gastro-intestinale continue. Le besoin hydrique est moindre s'il y a une insuffisance rénale oligurique, l'usage d'air humidifié, un œdème, hypothyroïdisme et SIADH. La thérapie de réplétion. Le but de la thérapie de réplétion est de corriger les anomalies en volume et ou en électrolytes. Le choix de fluide dépend du type de fluide perdu et des désordres électrolytiques existants. La plupart des patients sont initialement traités avec des solutions isotoniques ou du demi-salin, sans dextrose, et si les pertes persistent, on peut considérer l'usage de colloïdes. Le déficit hydrique total peut être estimé à partir du poids corporel pré- et post-déficit. Quant à la différence entre colloïdes et cristalloïdes, on note que les colloïdes ont un effet de pression oncotique qui retient l'eau dans le compartiment vasculaire. Les cristalloïdes n'ont pas d'effet oncotique et se distribuent rapidement entre compartiments vasculaires et interstitiels. Les fluides de réplétion entre parenthèses cristalloïdes, on a le normal salin 0,9% avec une osmolalité de 308 millimoles par kilogramme d'eau et le lactate ringé avec une osmolalité de 279 millimoles par kilogramme d'eau. Pour les colloïdes, on a habituellement au Canada l'albumine, le pentaspan et le voluvène. On note deux choses. Premièrement, en post-opératoire, on donne du lactate ringé ou normal salin jusqu'à ce que le patient soit euvolémique, puis on change pour les fluides d'entretien. Deuxièmement, pour les bolus, on utilise un fluide isotonique sans dextrose. Les désordres électrolytiques spécifiques. 1. Le sodium. La natrémie normale varie entre 135 et 147 millimoles par litre. L'hyponatrémie. On la classe comme légère quand le sodium est entre 125 et 134 millimoles par litre, modérée quand le sodium est entre 115 et 124 millimoles par litre. Les symptômes vont être la léthargie, ileus et nausée. Et hyponatrémie sévère quand le sodium est sous 115 millimoles par litre. Les symptômes seront les convulsions, coma, œdème cérébral. En toute hyponatrémie, il existe un excès d'eau relatif. On parle généralement de vraie hyponatrémie lorsqu'elle est hypotonique, avec une osmolalité plasmatique sous 275 mmol par kg d'eau. Elle peut être hypovolémique, euvolémique ou hypervolémique. À noter, plus une hyponatrémie s'installe rapidement, plus elle peut être corrigée vite. Mais il faut toujours respecter la vitesse maximale de correction afin d'éviter le risque de démyélinisation pontique. Cette limite, c'est avec du normal salin, 0,5 milliéquivalent par litre par heure. L'hyponatrémie hypovolémique se développe quand les pertes en sodium et en eau libre sont remplacées par des fluides hypotoniques. Le sodium peut se perdre par voie rénale et non rénale, autrement dit par perte gastro-intestinale, sueur excessive, troisième espace et syndrome de perte de sel d'origine cérébrale. On traite avec du NaCl 9% isoténique, plus ou moins du NaCl hypertonique. L'hyponatrémie euvolémique peut être causée par un SIADH, intoxication à l'eau ou potomanie. Le traitement se fait selon le tableau clinique, avec restriction hydrique à 15 ml par kg par jour, plus ou moins du salin hypertonique, plus ou moins un diurétique. Parfois, les comprimés de sel et un antagoniste de la vasopressine sont appropriés. Et l'hyponatrémie hypervolémique se développe quand la réserve de sodium augmente de façon inappropriée, soit par défaillance rénale chronique ou aiguë, soit en réponse à un état de volume efficace intravasculaire diminué. Les causes peuvent être une insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, ou un syndrome néphrotique. On traite par restriction hydrique, plus ou moins un diurétique. L'hypernatrémie, c'est quand le sodium sérique est supérieur à 145 mmol par litre. Les symptômes sont un état mental altéré, convulsions, coma, signes de déshydratation. L'hypernatrémie est causée par un manque d'eau. Parfois, il y a une perte excessive de fluide, mais l'apport inadéquat est toujours présent. Le traitement est causal d'abord, puis on calcule le déficit d'eau libre avec la formule suivante. 0,6 fois le poids en kilogramme fois, entre parenthèses, la natrémie mesurée divisée par 140 moins 1. Fermez la parenthèse. On remplace la première moitié du déficit en 24 heures, puis la deuxième moitié en un autre 24 heures, et pas plus vite que 10 milliéquivalents par jour pour éviter un œdème cérébral. On rétablit la volémie intravasculaire avec du normal salin et le déficit hydrique avec de l'eau libre, du dextrose ou du glucose 5%. On corrige l'hypernatrémie chronique lentement avec une vitesse de changement de sodium inférieure à 0,5 mmol par litre par heure. Point 2, le potassium. L'hyperkaliémie, c'est quand le potassium est supérieur à 5,0. Les symptômes cliniques sont semblables à ceux de l'hypokaliémie. Il n'y a rien de fiable pour les différencier. On a faiblesse, nausées, vomissements, paresthésie, arythmie, acidose métabolique, etc. Par contre, à l'ECG, on va voir des ondes T pointues, PR prolongée, QRS large, bradycardie. La cause peut être iatrogénique médicamenteuse, une insuffisance rénale, acidose, hémolyse, syndrome d'écrasement ou reperfusion après 4 heures d'ischémie. On va traiter avec un monitorage cardiaque. S'il y a présence de QRS large, on donne du gluconate de calcium 10% pour stabiliser le myocarde. On donne une ampoule en 2-3 minutes IV, puis on répète aux 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'ECG montre une amélioration. On donne aussi du glucose 5%, 500 ml et 10 à 20 unités d'insuline rapide à 150 à 200 ml par heure. On peut considérer aussi de donner des bicarbonates, cayexalates, agonistes B2 et recourir à la dialyse. L'hypokaliémie, c'est quand le potassium est sous 3,5. Les symptômes sont la fatigue, ileus, nausées, vomissements, arythmie, rhabdomyolyse, insuffisance respiratoire. À l'ECG, on voit un long QT, une dépression du segment ST, des ondes T basses et des ondes U. Les causes peuvent être des vomissements, drainage par tube nasogastrique, diarrhée, fistule entérique ou pancréatique importante, hyperaldostéronisme, ou l'usage de diurétiques de l'anse. Pour traitement, on donne du potassium par voie périphérique avec un maximum entre 40 et 60 millimoles par 24 heures ou par voie centrale avec un maximum entre 20 et 40 millimoles par 24 heures. Mais on n'en donne jamais en bolus IV histoire d'éviter une arythmie maligne. Si l'hypokaliémie persiste, on doit vérifier les besoins en magnésium et phosphate. Une déplétion en magnésium peut induire une hypokaliémie réfractaire au traitement. Point 3, le calcium. L'hypocalcémie se définit par un calcium sous 2,2 mmol par litre ou la forme ionisée sous 1,1 mmol par litre. On calcule la calcémie corrigée en fonction de l'albumine sérique ainsi. Donc, la calcémie mesurée, moins, ouvrez le crochet, 0,025 fois, ouvrez la parenthèse, l'albuminémie en grammes par litre, moins 40, fermez la parenthèse, fermez le crochet. L'hypocalcémie est souvent asymptomatique. Sinon, les symptômes sont des paresthésies, spasmes musculaires, tétanie, convulsions. On voit aussi le signe de Schwosteck et de Trousseau. Le signe principal à l'ECG, c'est le QT prolongé. Les causes principales de l'hypocalcémie, il y a la pancréatite, syndrome de lyse tumorale, transfusion rapide, insuffisance rénale, chirurgie de la thyroïde ou des parathyroïdes, une diète déficiente en vitamine D ou calcium et une incapacité à absorber les vitamines liposolubles. Comme traitement, ben si c'est asymptomatique, on va traiter la cause et donner des suppléments de calcium et de vitamine D. Si le patient est symptomatique, on va donner entre une moitié et deux ampoules de gluconate de calcium, 10% IV lentement, ça c'est en environ 10 minutes, puis entretenir avec 1 à 2 mg par kg par heure en continu. On n'administre jamais de calcium IV aux patients sous digoxine. Et enfin, on contrôle la calcémie aux 6 à 8 heures. L'hypercalcémie, c'est un calcium supérieur à 3,5 mmol par litre. Les symptômes sont très variables. Il peut y avoir de la fatigue, perte d'appétit, polyurie, constipation, nausée, confusion. À l'ECG, on va voir un QT court. Les causes de l'hypercalcémie sont diverses, dont l'immobilisation et les diurétiques thiazidiques. Le traitement, il faut traiter la cause. Puis, si le patient est symptomatique, on stimule la calciurie avec l'hydratation hydrosaline, donc du normal salin 200 à 300 ml par heure IV, et de la calcitonine sous-cutanée ou intramusculaire. Et au besoin, on inhibe la résorption osseuse avec des biphosphonates IV. Les diurétiques de lance sont indiqués pour les patients avec insuffisance rénale ou cardiaque. Pour conclure, quelques points importants. En cas d'hypovolémie légère à modérée, la vitesse d'administration des fluides doit être supérieure à celle des pertes, soit les pertes urinaires plus les pertes insensibles. On parle de 30 à 50 ml par heure pour les pertes insensibles, plus les autres pertes possibles, par exemple gastro-intestinales. Deuxième point, les hyper- et hyponatrémies doivent habituellement être corrigés lentement car une correction trop rapide est potentiellement dangereuse. Troisième point, lorsqu'il y a déplétion en potassium, il est indiqué d'en donner. Généralement, le patient est en hypokaliémie, mais il peut aussi avoir déplétion avec un niveau de potassium normal chez un patient en acidocétose diabétique ou en hyperglycémie hyperosmolaire. Enfin, concernant les solutions avec dextrose, elle devrait être utilisée chez les patients avec hypoglycémie ou prise d'alcool ou acidocétose en jeûne et devrait être utilisée avec de l'insuline en plus chez les patients avec une hyperkaliémie sans hyperglycémie. Des solutions avec dextrose ne devraient pas être utilisées chez les patients avec diabète incontrôlé ou hypokaliémie. Merci.